Bien, alors reprise, donc en effet, dernier volet de ce cycle sur une éventuelle crise de la philosophie aujourd'hui. Comme à chaque fois, un petit rappel d'ensemble. Donc on a traversé un certain nombre de poncifs, trois pour être exact, sur la crise d'existence, d'identité et de légitimité de la philosophie. À partir de cette traversée, j'avais essayé de définir donc un certain nombre de critères, peut-être discutables dans leur singularité, mais il me semble que l'ensemble peut donner quand même une certaine idée du style philosophique, un style donc qui était une forme de discours oral ou écrit qui tentait d'associer vérité et créativité d'un même mouvement, qui se voulait une parole publique, éventuellement publique au sens aussi, donc au sens politique, c'est-à-dire au sens où elle engage une démarche à la fois citoyenne, au sens de quelqu'un qui participe à la cité, et politique au sens aussi où elle est une adresse, pour reprendre certains termes de Foucault qu'on avait vus dans les cours au Collège de France, une adresse au pouvoir. Donc, un discours qui se distinguait aussi par son style de toutes les autres formes de discours qui cherchent à convaincre, c'est-à-dire que c'est un discours qui cherche le vrai et la créativité, mais à condition de ne pas, qui ne peut jamais se garantir d'une quelconque vérité sous prétexte qu'il aurait une structure rationnelle ou qu'il relèverait d'une forme de persuasion également. Donc, on l'avait distingué de la démonstration, de la persuasion, de toutes les formes de flatterie. Donc un discours qui se risque, qui est sans filet. Et puis à partir de là aussi, on avait vu que ce style philosophique appelait une autre forme de rapport à l'écriture philosophique, non seulement pour celui qui écrit, mais pour celui qui lit, un rapport qui devait être fondé sur l'étonnement qui n'était pas seulement le questionnement ou pas seulement non plus la surprise, mais l'étonnement qui était l'expérience d'un manque radical d'une représentation ou d'un système de représentation et dont on ne pouvait sortir. Alors il y a plusieurs moyens d'en sortir, on avait eu cette discussion, mais la démarche philosophique cherche à en sortir a priori par la création d'un concept nouveau, ce qu'on avait vu à travers Deleuze, même si Deleuze ne suivait pas absolument la démarche de l'étonnement. Moi, j'avais essayé de montrer que l'étonnement et la créativité en philosophie étaient, me semble-t-il, essentiellement liés. Alors, une fois qu'on a vu tout cela, donc, essayer de traverser ces poncifs pour définir un style propre à la philosophie, évidemment, je l'avais annoncé dans le premier volet de ces cours, il s'agit maintenant de réactualiser tout cela, c'est-à-dire on a dit peut-être à travers une démarche critique ce que n'était pas la philosophie et éventuellement comment était son style, mais maintenant il s'agit de savoir comment, si ce style peut s'inscrire dans la modernité et quels sont les enjeux pour notre civilisation. Alors on verra ce qu'on peut entendre par ce terme. Quels sont les éventuels enjeux contemporains d'une crise d'existence ou non de la philosophie dans notre société? Est-ce que ce style philosophique est présent? Alors, pour analyser cela, je vais repartir aussi de problèmes très radicaux, un peu schématiques dans leur énoncé, mais qui vont généralement avec ce qu'on nomme civilisation technique. J'expliquerai tout à l'heure ce que j'entendrai par là, mais quels sont aujourd'hui les problèmes liés à notre développement technique et est-ce qu'il peut y avoir vis-à-vis de ces problèmes un lien avec une éventuelle crise de la philosophie? Quels sont ces problèmes d'une civilisation technique? On les connaît, des problèmes de limites éthiques à notre développement, tout ce qui concerne par exemple les recherches sur le génome, tous ces aspects-là donc, qui peuvent dévier vers de l'eugénisme, problèmes écologiques, problèmes également d'un monde qui est dirigé par une technicité ou trop grande, c'est-à-dire tout ce qu'on entend par technocratie. Bref, tous ces aspects-là, est-ce qu'on peut en parler d'un point de vue philosophique et est-ce qu'il est possible de voir le rapport du style philosophique aujourd'hui avec tous ces problèmes-là? Alors, j'indique d'emblée, parler de civilisation technique, évidemment, quand je vais parler de civilisation technique, je ne vais pas parler du monde entier. Il faut tout de suite marquer déjà ce que je vais entendre par là. On va s'intéresser plus spécifiquement à nos sociétés occidentales et donc à des sociétés qui justement se posent les problèmes de ce développement technique parce qu'elles n'ont pas d'autres problèmes plus importants à se poser. Donc ça sera une réflexion plutôt sur nos sociétés occidentales. Alors, civilisation technique, qu'entendre par là plus exactement? C'est sur ce terme technique qu'il faut insister pour voir ensuite le rapport avec la question du style philosophique. Alors là, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. D'abord, le sens spécifique du terme technique. C'est très connu, donc ça vient d'un terme grec, techné, qui désigne de manière donc très générale l'ensemble des moyens qui sont nécessaires à la réalisation d'une finalité déterminée. Si j'ai la technique du maçon, ça veut dire que je connais l'ensemble des moyens qui me permettent de construire une maison. Donc la technique, c'est ce rapport moyen-fin, moyen-finalité déjà. On va voir ce qu'on va pouvoir en faire, mais cette signification est extrêmement importante. Donc ça, cet aspect technique relie aussi la notion de technique à tout le domaine du savoir-faire. Un savoir-faire, une technique, c'est un savoir-faire. Quoi d'autre? Eh bien, par extension, donc d'abord, la technique, comme rapport moyen-fin, bien, petit à petit, ces moyens se sont matérialisés. Donc, la technique, c'est aussi l'ensemble des objets techniques, c'est-à-dire des outils et des différentes constructions que l'homme invente pour aboutir à un certain nombre de finalités. Donc, bon, déjà, il faudra se souvenir de l'ensemble de ces significations pour comprendre ce qu'on entendra par civilisation technique. Alors, cette définition générale, tirée du simple sens du terme, elle est accompagnée, elle est marquée, depuis le XVIIe siècle, de beaucoup d'autres sens implicites. La technique, notamment, est devenue, je dis bien aussi depuis le XVIIe siècle, notamment depuis Descartes, mais je reviendrai là-dessus, l'image de la capacité rationnelle de l'homme à s'approprier et à maîtriser la réalité. Donc la technique est extrêmement liée à notre raison et au pouvoir que notre raison a sur le réel. Elle est liée aussi depuis un penseur qui s'appelle Adam Smith. Vous savez qu'Adam Smith donc, est notamment, parmi d'autres choses, mais l'inventeur de ce qu'on a appelé la division du travail. Ça a été la première manière d'appliquer les principes de la rationalité, Adam Smith, à la question du travail. Et que dit Adam Smith parmi d'autres choses dans De la richesse des nations, son livre? Il explique que le développement technique a justement pris un essor extrêmement important depuis qu'existe la division du travail. Alors je redis très très vite son raisonnement. Adam Smith explique qu'à partir du moment où, alors la division du travail, pardon, c'est le principe qui consiste à diviser en plusieurs tâches spécifiques et simples la construction d'un objet de manière à le construire de plus en plus rapidement ou plus efficacement. Et donc, ce qu'explique Adam Smith, c'est que comme chaque individu est concentré sur une tâche unique, spécifique, il a la possibilité, ça c'est parmi les aspects positifs, il y a des aspects négatifs, mais c'est parmi les aspects positifs selon Adam Smith, justement il a la possibilité d'inventer un certain nombre d'outils qui vont faciliter sa tâche puisqu'il n'a qu'une seule tâche à accomplir. Et donc, dans son livre, Adam Smith montre que le développement technique, et notamment dans l'industrie, est profondément lié à cette division du travail. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça veut dire que la question de la technique, inévitablement, elle va être liée à certaines formes économiques, à certaines formes donc idéologiques aussi, liées à la division du travail, et donc à tout ce qui va démarrer le XXe siècle, le travail à la chaîne, le fordisme, le taylorisme. Dès qu'on parle de technique, il y a nécessairement dans tout cela aussi des implications politiques et idéologiques qui sont liées au développement industriel et au développement du monde du travail. Donc, technique, reflet de notre pouvoir rationnel sur la réalité. Enfin, dernière chose, dernier aspect, pour expliquer ce qu'on peut entendre par civilisation technique, il y a aujourd'hui toute une mythologie de la technique. Pourquoi? Parce que, de plus en plus, on a l'impression que le développement technique a dépassé le pouvoir que nous avons sur lui. Alors ça, c'est tout ce qu'on a l'impression que le développement technique est un processus qui s'est autonomisé et un processus dont on n'aurait plus le contrôle. Pourquoi je vous parle de mythologie? Ben parce que ça, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans tous les films et les romans de science-fiction, où notre capacité de développement technique aurait désormais la possibilité de construire un certain nombre de machines, de robots, bref, de tout un tas de technologies qui auraient la capacité de vivre par eux-mêmes. En tout cas, c'est ce qu'on retrouve dans tous ces mythes. En fait, c'est si on essaye d'analyser ça très rapidement, cette crainte ou cette phobie d'être un jour dominé par les machines, c'est aussi, on y reviendra, mais un moyen pour l'homme de se satisfaire et de s'auto-satisfaire de sa capacité à créer quelque chose qui deviendrait vivant indépendamment de lui, qui serait une autre forme de vie, et qui revient en fait tout simplement à se mettre à la place de Dieu, d'une certaine façon. Donc, il y a dans toutes ces mythologies qui sont à prendre en compte dans ce qu'on entend par le terme technique, et donc qu'il faut intégrer aussi au sens de ce terme. Si on résume, la signification étymologique du mot, enfin son sens explicite, qui le lie à la question du rapport moyen-fin, la question du savoir-faire, la question de l'outil. Et puis, toute cette histoire de la naissance de la technique qui relie la technique à la rationalité, et enfin toute la mythologie technique, tout cela nous amène en fait à définir un certain style, à nouveau, de rapport au réel. Un style de rapport au monde qui structure aujourd'hui toute notre façon d'être et de penser. Et ce style consiste en quoi? Eh bien, si on résume un petit peu tout ce qu'on a dit avant, et c'est ce que je vais aussi essayer de montrer, mais c'est une expression un peu barbare, il absolutise le rapport du moyen et des fins, il absolutise l'importance du savoir-faire, et puis autre chose, et ça c'est un aspect, il me semble, extrêmement important, dans l'idée que la technique est devenue aujourd'hui un processus de développement qui a dépassé notre contrôle. Cela nous obligerait à admettre que la technique n'est qu'un phénomène auquel il faut désormais s'adapter. Et ça va être extrêmement important parce que la civilisation technique nous dira sans cesse que, enfin la civilisation technique, notre système, on est persuadé que le seul moyen éthique que nous avons de limiter le développement technique, c'est de s'adapter à elle, comme s'il n'y avait aucun moyen de la transformer, de la changer, que nous n'aurions plus aucun pouvoir sur elle. Donc, c'est les trois aspects que je vais retenir pour définir une civilisation technique, le rapport moyen-fin, la question du savoir-faire et cet imaginaire de l'adaptation. Une fois qu'on a dit ça, je vais développer tous ces points pour essayer de vous montrer quelles conséquences cela a concrètement, mais déjà poser le problème à partir de là. Si, par rapport à ce développement technique, on veut aujourd'hui essayer de fonder certaines valeurs éthiques, comment va-t-on faire ? On est face à un paradoxe immédiat. Pourquoi ? Parce que comment limiter, voire remettre en question la valeur même de la technique, si elle fonde aujourd'hui toute notre façon d'être et de penser ? Au nom de quelle valeur et de quelle manière de vivre est-il possible d'interroger la technique si notre jugement repose encore sur les valeurs mêmes que cette même technique véhicule? C'est ça le paradoxe, c'est qu'à chaque fois qu'on essaye de réfléchir sur les valeurs éthiques ou de créer ces valeurs éthiques qui pourraient limiter le développement technique et ses éventuelles dérives, on est pris dans la façon de penser technique. C'est ce que je vais essayer de montrer et on a énormément de difficultés à en sortir. Et il me semble que, précisément, c'est sur cette question éthique que la crise de la philosophie va être le plus palpable. Parce que ce questionnement éthique supposerait le souci de la créativité, le souci de l'étonnement, le souci de la sortie de l'imaginaire de l'adaptation. C'est ce que je vais développer maintenant et vous montrer que, à mon avis, il y a bien une crise de la philosophie au sens où le style technique est ce qui est sans doute le plus opposé au style philosophique. J'espère que je ne suis pas allé trop vite parce que j'espère qu'on est à peu près clair sur le sens de civilisation technique. Je voudrais revenir déjà sur une première dimension de ce style technique, le savoir-faire. Je vous avais dit que la semaine dernière que l'une des inquiétudes qui était née dans l'histoire de la philosophie, notamment française au XXe siècle, c'était qu'on se fonde de plus en plus sur le savoir et la vérité et qu'on cherche de moins en moins la nouveauté. Vous avez parlé d'un certain nombre de philosophes de ce point de vue-là. Eh bien, le style technique, justement, est quelque chose qui va concrétiser totalement cette absolutisation, si je puis dire, du savoir. Et notamment, du savoir-faire. Ce qui est très intéressant, me semble-t-il, c'est de constater que cette notion de savoir-faire, elle fonde aujourd'hui toutes nos valeurs et toute notre culture. Le fait de dire qu'on ne peut plus dissocier, et c'est le propre du style technique, le savoir et le faire est, à mon avis, quelque chose de très important. Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, la prédominance du style technique signifie que nous avons foi, consciente ou non, en l'indissociabilité du savoir et du faire. Et c'est par là que nous définissons nos valeurs. Je m'explique. Aujourd'hui, si on regarde dans le sens commun, il n'existe plus de faire, c'est-à-dire de mode d'action, qui soit dissociable d'un savoir a priori et même d'un savoir hautement spécialisé. Le développement de ce qu'on appelle la technocratie au XXe siècle suffirait à le montrer. La technocratie, c'est vraiment l'idée que chaque domaine du politique doit désormais être l'affaire d'un spécialiste, de quelqu'un qui a un très 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 haut niveau d'études et qui a la possibilité d'établir de manière rationnelle et calculée tous les modes d'action possibles. Mais essayons d'être un tout petit peu plus concret. Chaque domaine de la vie est maintenant investi par un savoir spécifique qui tente d'abolir la contingence de ce qu'on pourrait appeler les affects et la contingence de la subjectivité. Les techniques de ce qu'on appelle le management, de la communication. Alors, elles régissent nos milieux professionnels, par exemple, pour savoir gérer des groupes humains, mais elles régissent aussi maintenant nos relations sentimentales, amicales, affectives en général. Si on en croit Internet, il y a aujourd'hui une technique de la relation amoureuse, une technique de la rencontre, une technique du comportement amical. Il y a une technique pour tout. Il y a une technique pour accéder au bonheur. Si vous suivez le PNL, le programme de... Programme de... Et chaque fois que j'oublie, je dois refouler ce terme. C'est pas... Neurolinguistique, merci. Il y a des fois des termes qu'on ne peut pas retenir comme ça. Il y a, donc dans ce programme définit un certain nombre de comportements sociaux, éducatifs, etc., qui sont censés vous conduire à la réussite et au bonheur. Il y a une technique pour tout. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la valeur d'une action, la valeur d'un faire, est toujours fondée sur un savoir technique extrêmement précis. On pourrait démontrer, donc, les seuls modes du faire qui soient valables sont fondés sur le savoir. Mais on peut démontrer la réciproque aussi. Aujourd'hui, les seuls modes du savoir qui soient un tout petit peu valables, selon nous, ce sont les modes du savoir qui ont une application pragmatique immédiate. Si vous parlez pourquoi parle-t-on des chercheurs qui sont toujours en difficulté financière, qui n'ont pas de moyens, de la recherche fondamentale qui ne peut plus rien faire, des études qui ne mènent à rien, etc. Parce que aujourd'hui, l'idée d'une recherche ou même simplement d'une culture intellectuelle qui ne soit pas d'emblée appliquée dans un faire immédiat, on n'en voit pas ni l'intérêt, ni l'utilité, ni la valeur. À partir de là, on peut aussi, si le savoir-faire est vraiment une valeur fondamentale, sur quoi on va réfléchir finalement, si on est enfermé dans cette dimension, si on veut s'interroger sur l'éthique, si on veut l'éthique de la technique, qu'est-ce qu'on va interroger ? Ben, il n'y a pas 36 façons d'interroger un savoir-faire. Mieux agir, ça va vouloir dire quoi ? Ben, ça va vouloir dire mieux savoir, c'est-à-dire plus savoir. Donc, les seules modalités d'interrogation éthique vont se dérouler sur l'interrogation des savoirs établis, pas de création. On aura beau affirmer la prédominance de certaines valeurs sur le développement de la technique, elles resteront toujours dérisoires par rapport à notre volonté de savoir. Vous pourrez bien dire à quelqu'un, attention, l'utilisation de la scission de l'atome peut être dangereuse. Notre volonté de découvrir ce qu'on est capable de faire avec ça, elle sera toujours plus forte. Parce qu'on est dans une valorisation aujourd'hui du savoir qui est colossale. Donc vous pouvez bien essayer d'y mettre les limites de valeur que vous voulez. Par rapport à la recherche du savoir, là, il n'y aura aucune limite. Donc qu'est-ce que ça implique ça dans notre rapport à la réalité et au monde en général ? Eh bien, ça implique l'abolition d'une notion qui était déjà essentielle au style philosophique, mais même à d'autres styles, qui est la notion d'expérimentation. Vous avez dit, dans la créativité, il faut non pas seulement l'expérience, mais expérimenter. C'est-à-dire accepter qu'une action, qu'un faire, si on revient, ne repose pas sur un résultat qu'on aura prédéterminé, que l'inconnu persiste, qu'il y ait des modes d'action qui soient dirigés vers d'autres choses que ce que la conscience, ce que notre esprit, ce que notre raison a établi a priori. Donc, essayer de développer cet autre type de rapport au réel, c'est déjà là, il y a déjà un grand manque dans la civilisation technique. Et à mon avis, c'est pas un hasard si je vous disais que la semaine dernière que peut-être dans l'art on peut trouver des choses qui se rapprochent de l'étonnement philosophique. C'est peut-être pas un hasard si au début du XXe siècle et même dans une grande partie du XXe, un certain nombre de nouvelles formes artistiques vont se fonder sur quoi ? Eh bien, sur le hasard et l'aléatoire. Pourquoi ? Parce que c'est une forme de résistance au savoir-faire. Si le surréalisme, par exemple, breton, enfin, tout le manifeste surréaliste, l'écriture automatique, le fait de laisser de la place au hasard dans nos modes d'action, est une résistance, à mon avis, est une forme de résistance au style technique qui caractérise notre civilisation. Parce que, justement, on n'est plus dans le savoir-faire, là. Là, il y a une opposition artistique très claire à... il y a une recherche d'autres modes d'action possibles dans le surréalisme, par exemple, qui place au milieu de l'action et du flair, non plus la raison, non plus le savoir, non plus la vérité, mais le hasard, l'aléatoire. Ça se retrouve également chez quelqu'un comme Pollock. Pollock, qui est un des peintres les plus célèbres actuellement, on pense ce qu'on veut de sa peinture, mais la démarche de Pollock est une démarche qui met au cœur de la création et de son action de peintre le hasard. Donc là, à mon avis, il y a certains signes dans l'art qui cherchent justement à retrouver des modes d'expérimentation du réel qui soient autres que des modes fondés sur le savoir-faire. Et la civilisation technique, à mon avis, absolutise ces notions de savoir-faire et on ne sait plus penser que de cette manière aujourd'hui. Alors, le lien avec le style philosophique, c'est que justement, à travers l'étonnement, je vais y revenir, il y aurait peut-être aussi quelques moyens de sortir de cela, et c'est ce que je vais interroger, avec la deuxième dimension du style technique, le rapport moyen-fin. Si on réfléchit, par exemple, repartons d'un problème très connu, qui est celui du problème écologique. Le problème écologique, qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui ? Ben, plus de limites à notre développement industriel, à notre recherche, aux déchets que ça peut impliquer, etc. Je ne vais pas disserter là-dessus. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que le monde, la nature, est conçue comme le moyen, quelles qu'en soient les conséquences, de réaliser nos projets. Et ce problème écologique est le reflet immédiat d'un style technique de rapport au réel qui, justement, voit dans le réel, dans le monde, dans la nature, pour l'instant on va considérer tout ça comme synonyme, un moyen de parvenir à nos fins. Alors, justement, ça c'est une caractéristique extrêmement importante du style technique. Pourquoi ? Parce que, là encore, si vous cherchez, quand vous êtes dans ce type de rapport au réel, une technique, par définition, elle n'interroge pas, elle ne se questionne pas sur la finalité qu'elle veut atteindre. Ou bien alors, c'est une autre technique. Le champ d'interrogation du style technique, du rapport moyen-fin, c'est uniquement le champ des moyens, jamais celui des finalités. Qu'est-ce qu'une technique cherche à faire évoluer ? Ses moyens. Quelles sont les questions qu'on se pose aujourd'hui ? Non pas quelles finalités je vais atteindre, mais comment les atteindre ? Plus efficacement, plus rapidement, plus simplement, de façon plus fiable, plus sûre. La vitesse, la sécurité, l'efficacité, la fiabilité, la simplicité, la fonctionnalité, tout ça, ce sont des valeurs qui aujourd'hui régissent notre rapport au monde et qui sont le reflet immédiat du fait que dans un style technique, on interroge les moyens, mais jamais les fins. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces fins elles-mêmes, ces finalités, ne nous étonnent plus. On ne s'interroge plus sur les finalités à atteindre. Exemple type, il faut avancer, il faut progresser, il faut plus connaître, il faut. Donc là, il y a un type de rapport au réel qui est vraiment focalisé sur les moyens à développer et qui ne s'interroge plus sur les finalités à atteindre. Alors, je voudrais développer un tout petit peu pour préciser ça, enfin un tout petit peu, même un peu longuement, Heidegger. Avant de parler de Heidegger, c'est maintenant de coutume, à chaque fois qu'on parle de ce philosophe, d'annoncer les choses avec beaucoup de prudence. Je n'ignore pas que Heidegger avait sa carte au parti nazi. Je n'ignore pas qu'il y a un certain nombre de textes de Heidegger qui sont, extrêmement tendancieux sur la place qu'il accorde dans l'histoire à la race allemande et certaines théories un peu étranges qu'il a pu, même si ça demeure un peu ambigu dans ces textes, il y a parfois des passages quand même explicites où Heidegger est clairement dangereux. Je ne nie pas tout cela et j'en suis tout à fait conscient. Il n'en reste pas moins que Heidegger est aussi l'une des personnalités philosophiques qui a influencé énormément de philosophes de notre temps, tous les penseurs de notre temps, qu'il y a certains textes et analyses qui sont extrêmement puissants, même si vous allez voir, sur certains points, je m'en distinguerai, et notamment sur la question de la technique, il y a des textes tout à fait passionnants. Donc, c'est tout ça pour rappeler aussi le rapport à l'écriture et au livre dont je vous avais parlé. Un texte philosophique n'est pas un texte sacré. Ce n'est pas parce que je vais parler d'Heidegger que je suis, à tous les sens, être et suivre Heidegger. Ce n'est pas parce que je vais parler de lui que je partage son idéologie. D'accord ? En revanche, il y a chez Heidegger un certain nombre de textes qui donnent énormément à penser et qui sont, je crois, tout à fait intéressants. Et notamment un texte qui est tiré d'un livre qui s'appelle « Essais et conférences » et ce texte s'appelle « Qu'est-ce que la technique ?» Que dit Heidegger ? Bien, il commence comme de manière très simple, il dit « La technique, qu'est-ce que c'est ? C'est un rapport moyen-fin. » Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, il se fonde tout simplement sur l'histoire et l'étymologie du terme. Et donc, dit Heidegger, la technique c'est quoi pour lui ? Ben, c'est un mode de rapport au monde qu'il appelle un rapport instrumental. Là, je le cite. La technique, dit-il, c'est... Alors bon, il a un vocabulaire un peu particulier. Heidegger, il écrit mal. Mais ça n'engage que moi. Et il parle d'instrumentum. Nous avons un rapport instrumental au monde, dit Heidegger. Ça veut dire quoi pour lui ? Ça veut dire que nous considérons le réel comme un stock d'énergie destiné à la réalisation de nos projets. Alors, ce qui m'intéresse, bon ça on en a déjà un peu parlé, ce qui m'intéresse surtout c'est ce qu'il va dire ensuite. Il y a, pour Heidegger, la raison de ce rapport technique au réel qui caractérise le XXe siècle, est liée à une certaine conception de la subjectivité, et notamment de la subjectivité issue du cartésianisme, issue de Descartes. Quelle est cette conception de la subjectivité ? Très schématiquement dit, Descartes, philosophe français, XVIIe siècle, a montré que tout rapport au réel se fondait tout d'abord sur une subjectivité consciente d'elle-même, et qui pouvait atteindre le vrai, et même le vrai absolu, par la pensée. Et donc, la vérité n'était plus le privilège de Dieu, mais à partir d'une subjectivité radicale, il était possible d'atteindre le réel, de le comprendre, et notamment, c'est une phrase de Descartes qui est très célèbre, il était possible de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Et donc, finalement, ce rapport instrumental au réel serait né d'une certaine conception de la subjectivité, subjectivité d'une certaine façon toute puissante. Nous serions devenus d'un seul coup tout puissants, pensant pouvoir tout maîtriser un jour par la connaissance, et que le réel n'était que le monde dans lequel nous vivions, pour faire simple, n'était que le moyen de réaliser cette raison qui était en nous, et cette pensée. Et donc, à travers le phénomène technique, ce que critique Heidegger, c'est clairement, en tout cas au début du texte tiré de ses conférences, une certaine conception de la subjectivité. Et là, il y a quelque chose de très intéressant que malheureusement, enfin, je crois, et de mon point de vue, malheureusement, que Heidegger ne développe pas. Sur quoi, que dit-il ensuite? Et c'est ensuite que ça devient, de mon point de vue, beaucoup plus abstrait. Heidegger dit que cet idéal technique est révolu aujourd'hui et qu'il faut sortir de cette conception de la subjectivité. Pourquoi? Parce qu'en fait, la technique n'est que l'expression du réel lui-même, réel qui, dit-il, serait une cause qui a besoin de se une cause première qui aurait besoin de se dévoiler d'elle-même et que la technique n'est que la réponse humaine à ce dévoilement. Alors là, on entre dans la métaphysique heideggerienne. Heidegger appelle ça l'arraisonnement. Je vous avoue que j'ai eu beau lire ce texte des dizaines et des dizaines de fois, l'arraisonnement, j'ai jamais compris ce que c'était. Pourquoi dire que le réel a ce besoin d'expression, de dévoilement? Parce que là, à mon avis, il y a quelque chose, alors d'une part que Heidegger pose, me semble-t-il, de façon un peu rapide et arbitraire, mais en plus il y a là aussi quelque chose de dangereux. Et c'est là que, chez Heidegger, peut-être il y a quelque chose qui peut basculer. Parce que quand vous dites ça, quand vous prétendez savoir quelle est la nature du réel, ce qu'il fait, et que nous sommes obligés de nous adapter à ça, eh bien, vous pouvez justifier n'importe quel type de système politique qui, soi-disant, aurait compris ce qu'était cette nature et qui répondrait à cet appel du réel. Donc, l'arraisonnement, pour moi, c'est quelque chose d'un peu abstrait, de métaphysique, comme dirait Heidegger. Et, à mon avis, ce qui est très intéressant chez lui, c'est plutôt de rester sur, non pas de partir sur cette notion d'arraisonnement, tendancieuse, mais plutôt de voir ce qu'il dit sur la critique de la subjectivité. Pourquoi? Parce que, en allant vers cette idée d'arraisonnement, Heidegger va être au fondement de ce que j'ai appelé tout à l'heure, et sur lequel je reviendrai en dernier, de l'imaginaire de l'adaptation. L'idée qu'il faudrait forcément s'adapter. Or, c'est pas ça le problème. J'y reviendrai. Alors, qu'est-ce qui me semble intéressant? Dans la critique de la subjectivité, là, il y a quelque chose où la philosophie a des choses à dire dans l'histoire du XXe siècle et où précisément c'est, à mon avis, de plus en plus occulté et tu. Pourquoi? Heidegger, à la même période, connaît beaucoup de penseurs qui, justement, auraient pu nourrir sa réflexion sur ce point. Que des conceptions nouvelles et un étonnement sur la subjectivité au début du XXe siècle, il y en a et pas des moindres. Je veux citer par exemple la psychanalyse. Je veux citer par exemple l'école de Francfort. L'école de Francfort, c'est un ensemble de penseurs allemands qui remettent en question justement le style technique, la rationalité, Adorno notamment. Donc je vais revenir sur ces points. Parce que là, il y a quelque chose qui me semble absolument essentiel, et j'ai été invité très souvent ici à me situer par rapport à Michel Onfray, donc du coup là, on va pouvoir avoir un débat sur ce point. Sur la psychanalyse, de mon point de vue, il y a une conception absolument nouvelle qui naît avec Freud. Alors, je précise que je ne suis pas psychanalyste, je ne compte pas le devenir, je n'ai pas non plus d'action dans une quelconque institution psychanalytique, donc je n'ai aucun intérêt à dire cela. Mais il y a, à mon avis, dans la psychanalyse, quelque chose de vraiment tout à fait nouveau, qui est la notion d'inconscient. Et cette notion d'inconscient, elle révolutionne l'approche de la subjectivité. Elle révolutionne complètement l'approche de la subjectivité. Il n'y a pas le but de Freud dans ses textes n'est pas de montrer que tout est sexuel ou que tout est comment dire, que tout est lié à un complexe d'Œdipe où un petit garçon voudrait coucher avec sa mère et tuer son père. Donc c'est pas forcément ce genre de très très grossi qui caractérise la psychanalyse. Freud dit bien que l'inconscient, pour lui, est une hypothèse de travail. Et il a une approche, notamment dans un texte qui s'appelle Métapsychologie, extrêmement scientifique de cette hypothèse de travail. Il a une démarche très rigoureuse, très progressive. Et donc, il y a, à ce moment-là, après quoi qu'on pense de la psychanalyse, ça ne veut pas dire qu'il faut être d'accord avec tout ce que... Mais il y a, en tout cas, Heidegger aurait pu le voir, dans la psychanalyse, une conception tout à fait nouvelle de la subjectivité qui n'est pas du tout proche de la conception cartésienne. Pas du tout. L'inconscient remet en question le pouvoir de la raison, la suprématie du sujet, et voit là dans cette conception de la subjectivité quelque chose de tout à fait nouveau. J'ai parlé aussi de l'école de... Alors, pour Heidegger, à mon avis, l'histoire religieuse de Freud n'était pas étrangère. Freud ne pratiquait pas, mais était d'une famille juive. Il n'est pas impossible que Heidegger ait eu quelques réticences à vouloir approcher la psychanalyse pour ces raisons. Je n'en suis pas sûr, mais ce n'est pas impossible. Parce que d'un autre côté, il a été aussi très proche d'Hannah Arendt, qui était de la même confession que Freud. Donc il y a des choses un peu étranges dans sa vie, il faudrait voir. Autre chose, l'école de Francfort. L'école de Francfort, Adorno, Horkheimer, tous ces philosophes s'intéressent, en particulier à Adorno, ce qu'on pourrait appeler une nouvelle vision de la rationalité des Lumières et à l'héritage de la subjectivité rationnelle. Et là, il y a un vrai étonnement philosophique sur ce qu'est la raison, sur ce qu'est son pouvoir. Est-ce que la raison est vraiment quelque chose qui nous permet de maîtriser totalement le réel? Est-ce qu'il n'y a pas ici des risques totalitaires? Adorno prononce le terme dans certains de ses livres, où il dit « les lumières sont totalitaires ». Donc il y a un questionnement sur la raison à ce moment-là, et donc on pouvait... il était possible, peut-être, à travers ces différents mouvements de pensée qui ont beaucoup de mal à trouver une place institutionnelle, une place sociale, de manière à se faire un peu entendre. Et là, il y a une place pour, justement, avoir d'autres approches de la subjectivité et d'autres approches de notre rapport au monde que celle du seul rapport moyen-fin. Enfin, dernier aspect, la question de l'adaptation. L'idée que notre style, qu'aujourd'hui notre rapport au monde ferait que nous sommes obligés de nous adapter d'une manière ou d'une autre à un processus qui de toute façon nous a dépassés. Ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est l'idée que nous n'avons pas d'autre choix que de nous adapter au développement technique. Et qu'il y a un moment pour la pensée et la théorie, et un moment pour l'action. Et que ces deux moments sont absolument disjoints. Pourquoi? On l'a déjà un peu évoqué dans les discussions qu'on avait eues ici, où il y a comme une sorte de paradoxe aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler donc la civilisation technique. L'idée que nous avons une liberté de parole, une liberté de pensée extrêmement grande, qu'il y a de multiples supports aujourd'hui pour apporter des points de vue différents, pour apporter des paroles insolentes même. Mais ce qui est très paradoxal, et on en avait parlé, c'est que tous ces lieux d'expression, toutes ces pensées nouvelles, tous ces points de vue, qui ont tous droit de citer, finalement, reste toujours sans conséquence. Pourquoi? Parce que dès qu'on est dans l'ordre de l'action, du faire, alors là il ne s'agit plus de penser, il y aurait des données objectives d'un problème auquel il faudrait s'adapter. Et c'est là que le style technique est le plus trompeur et le plus... que notre façon de penser est la plus prise au piège d'une certaine façon, mais pas par quelqu'un, par quelque chose ou par une institution, mais on est pris dans ce qu'on a nous-mêmes créé. À chaque fois qu'on va essayer de penser l'action politique, de penser une action, de penser quelque chose qui ne soit non plus un simple luxe intellectuel, mais une action concrète d'un point de vue politique, là, toutes les portes se ferment. Et on va rejoindre la question ici du savoir-faire, c'est-à-dire que on n'aura plus la possibilité de créer de nouvelles formes, éthiques, de nouvelles valeurs qui puissent nous permettre de changer nos finalités, qui puissent permettre de créer du sens, qui puissent permettre de disjoindre ce que la technique ne disjoint jamais, c'est-à-dire la question du rapport du moyen et des fins et la question du savoir-faire. Or, ces différents aspects-là, le fait de ne plus pouvoir disjoindre ces différentes dimensions, empêche totalement l'étonnement. Et là, il y a là quelque chose qui serait, à mon avis, il y a aujourd'hui une crise d'existence de la philosophie, parce que on manque d'auteurs qui s'interrogent vraiment sur d'autres modalités du faire, d'autres modalités d'action. Il y en a dans l'art, je l'ai un peu cité, mais dans la philosophie, beaucoup moins. Edgar Morin, peut-être, réfléchit un peu sur ce point, et de manière aussi très concrète. Mais sur la question aussi du rapport instrumental, l'idée d'une nouvelle réflexion sur la subjectivité qui ne soit plus fondée sur l'idéal d'une maîtrise totale du réel par la raison, là aussi il y a à mon sens un manque d'interrogation philosophique, même s'il y a eu quelques amorces, ne soyons pas trop radicales, mais s'il y a eu quelques amorces aussi chez Gilles Deleuze par exemple. Donc, pour conclure l'ensemble de ces quatre volets, je dirais que il y a bien, d'une certaine façon, une crise de la philosophie, si on entend par là, crise du style philosophique. Parce que, de plus en plus, la question du sens, la question de la créativité, a été envahi, a été surpassé par le problème du savoir, de la vérité, de la connaissance. Et les différents symptômes qui sont apparus au cours de ces quatre volets, que sont le rapport que nous avons à l'écriture, mais les symptômes qui apparaissent dans notre civilisation, ce que j'ai appelé la civilisation technique aujourd'hui, montrent non pas qu'il y a besoin d'écrire plus de philosophie, mais qu'il y a un besoin d'écrire autrement, de lire autrement. Et non pas pour renier la recherche de la vérité, il serait absurde de passer dans l'autre sens, mais pour que cette question de la vérité soit toujours liée aussi à celle du sens. Pourquoi tout cela a changé? On peut faire une hypothèse rapide, mais jusqu'à la fin du 19e, grosso modo, la question de la vérité et du sens en philosophie ont été presque indissociables parce que, d'une manière ou d'une autre, la philosophie était très souvent liée ou bien à la religion ou bien à une certaine image de Dieu. Toujours. Donc il y avait un sens, il y avait l'idée d'une destinée. Or, avec la naissance de ce qu'on appelle la philosophie du soupçon, et Nietzsche notamment, mais bien d'autres aussi après lui, la question du sens s'est disjointe du celle de la vérité. Le sens n'est plus donné, le sens est à faire. Et ce n'est pas un hasard si au début du XXe siècle, il ne reste d'une certaine façon que notre connaissance et que la question du sens a disparu. Le sens est entièrement à créer. Et cette question de la création, de la nouveauté, est fondamentale aujourd'hui parce que, me semble-t-il, la civilisation technique est uniquement fondée sur la question du savoir. Et peut-être que sur ce point-là, le retour à un style philosophique, à ce que j'avais essayé, ce que j'ai essayé de définir comme le style philosophique, pourrait nous permettre, peut-être, certaines évolutions éthiques dans différents domaines de la vie, du point de vue écologique, mais du point de vue biologique, du point de vue scientifique aussi, peut-être, et que de ce point de vue-là, il y a, à mon avis, une réflexion à faire. Je vous remercie.